Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 7h.
Nous sommes en fait dans le début d'un éventuel rebond et ce rebond-là, nous avons encore les moyens de le contrôler.
De quel côté va-t-on basculer? C'est toute la question. Le gouvernement attend les données sur les contaminations du réveillon et l'impact du variant anglais. C'est une semaine décisive qui commence. On en a beaucoup parlé le jour J, mais comment s'applique concrètement le Brexit? C'est le dossier qu'Europe 1 a décidé d'ouvrir ce matin. Trafic transmanche, droits de douane, mais aussi pénurie dans certains rayons. Les détails des débuts de ce journal. Savez-vous ce qu'est un viseur d'étoiles? C'est une nouvelle technologie qui pourrait peut-être remplacer les GPS pour les avions. Elle leur permet de se repérer grâce aux étoiles en plein jour. Europe 1 vous révèle que l'armée française va l'utiliser. Et puis nous rendrons hommage à un aventurier, un vrai, qui vient de nous quitter, Hubert Auriol, triple vainqueur du Dakar. Il avait 68 ans et à l'instant, on apprend le décès de Georges Pernoud, présentateur historique de Thalassa.
Un autre aventurier, un autre grand aventurier qui vous a fait voyager le vendredi soir, Georges Pernoud, on apprend son décès à l'instant, c'est sa famille qui l'apprend à l'AFP. Juste après ce journal, l'échec de Joe Biden pour relancer l'économie américaine, c'est l'éclairage éco de Nicolas Barré. La ministre de la Défense qui s'inquiète de la résurgence de Daesh, état des lieux dans le regard international de Vincent Hervouet. L'édito sport, Virginie Fulpin, avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Cela fait aujourd'hui 11 jours que les accords du Brexit signés in extremis sont entrés en vigueur. Et ce matin, sur Europe 1, on a décidé de nous pencher sur la question pour un tout premier bilan avec vous, Carole Ferry. Bonjour. Alors d'abord, comment se passe le trafic entre la Grande-Bretagne et le continent?
Eh bien écoutez, globalement bien, c'est plutôt fluide. Alors il faut dire que le Covid a considérablement ralenti les échanges et puis les Britanniques avaient fait beaucoup de stocks en prévision d'un no deal. Donc pour l'instant, ils vivent sur leurs réserves. Il n'y a pas autant de commandes que d'habitude. Et puis les formalités douanières ont été informatisées et ça simplifie beaucoup les choses.
Il y a quand même quelques difficultés.
Oui, les contrôles douaniers, notamment sur les produits frais ou phytosanitaires, peuvent retarder les transporteurs. Autre exemple, Stéphane Moisan est un chef d'entreprise français qui exporte des robinets vers la Grande-Bretagne. Il pensait qu'après les accords commerciaux, il n'aurait pas de droits de douane à payer. Il est allé vérifier sur Internet et la surprise, ces robinets étaient taxés à 2%.
Ah ben nous, on s'attendait à zéro, vu qu'il y a un deal. Voilà, donc ça a des conséquences qu'on essaie de clarifier. On est évidemment, je pense, pas le seul à se poser des questions. Ça prend un petit peu de temps pour avoir des réponses. Et on espère en avoir, évidemment, rapidement. Mais on voit, dans tous les cas, qu'on a quand même de légers trous dans la raquette, en tout cas sur ces premiers jours.
Et oui, parce qu'en fait, ces accords ne suppriment pas les droits de douane. Ils permettent d'en être exonéré, mais à certaines conditions. Il faut pour ça qu'une partie des produits soit fabriquée au sein de l'Union européenne. Par exemple, pour qu'une montre puisse être détaxée, il faut qu'au moins 50% de ces pièces proviennent de l'Union européenne et c'est différent pour chaque produit.
Alors, on imagine que les choses vont finir par rentrer dans l'ordre. Vous restez avec nous, Carole. On va parler des problèmes d'approvisionnement de produits anglais en France. Les nouvelles règles sur l'exportation ont de vraies répercussions sur les rayons de nos magasins Marks & Spencer. On va écouter le reportage de Jean-Gabriel Bourgeois.
C'est vide, 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 on dirait la guerre.
Etty ressort du magasin quelques minutes à peine après y être entrée. Son sac de course est comme les rayons.
Rien, vide.
Aucun yaourt, pas de poisson, de fruits, pas non plus de salade. Carmel a dû faire une croix sur ses produits anglais préférés.
Comme la bonne crème fouettée, comme certaines épices, comme les plats indiens, le bon thé anglais. Mais là, ils en ont.
En fait, ce sont les produits frais qui manquent sur les étagères. La raison ?
Brexit.
Un panneau indique que la nouvelle législation sur l'exportation des marchandises perturbe l'approvisionnement et cela inquiète les clients.
J'ai demandé au caissier, il m'a dit on ne sait pas, on est dans la même situation.
Il fallait s'attendre à ça, ils vont bientôt être au chômage technique parce que s'il n'y a plus rien, terminé.
Les acheminements se referont peut-être avec des prix un peu plus élevés.
Bon, ils ont voulu l'avoir, le Brexit, ils l'ont maintenant. Mais maintenant, ils vont vraiment commencer à en subir peut-être les conséquences et voir ce que c'est que la réalité des choses.
Bientôt 2 semaines sans aucune livraison, confie un vendeur qui espère un retour à la normale, mais pas avant le mois prochain.
Carole Ferry, on comprend que ces accords sont encore très très frais et qu'il reste encore de sérieux problèmes administratifs.
Bah oui, il faut savoir que le texte de ces accords fait quand même 1246 pages, sans compter les centaines d'annexes. Donc vous imaginez bien qu'il faut un peu de temps pour digérer tout ça. Sans parler des malentendus dans les interprétations et les litiges qui vont sûrement intervenir à l'avenir, en particulier bien sûr sur les questions autour de la pêche.
Oui, merci Carole Ferry. D'ailleurs, à propos de la pêche, les marins bretons et normands qui veulent travailler dans le secteur de Jersey ont maintenant besoin d'une autorisation, ce qui vivent très mal. Les autorités françaises redoutent d'ailleurs un coup d'éclat de ces pêcheurs.
7h05 sur Europe 1. Plus de 50 000 doses du vaccin Moderna sont livrées à la France aujourd'hui. Elles sont réparties d'ici mercredi entre les régions les plus touchées, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Oui, la campagne de vaccination gagne du terrain et le gouvernement attend des chiffres décisifs. Les contaminations du nouvel an et l'impact du variant anglais, dont au moins 8 cas ont été décelés à Marseille. Mathieu Charrier.
D'abord, le pourcentage de cas du variant anglais dans les nouvelles contaminations Covid. Olivier Véran a avancé hier matin sur Europe 1 le chiffre de 1% tiré des toutes premières remontées de la grande enquête nationale. Ça paraît peu, mais c'est déjà inquiétant. Le Danemark, par exemple, avait pris des mesures dès que ce variant représentait 0,2% de ses contaminations. Ce chiffre a déjà été multiplié par 10. Autre donnée très scrutée cette semaine, celle des contaminations liées à la Saint-Sylvestre. Pour Noël, on a le chiffre, plus 17%. C'est assez limité, mais qu'en est-il du réveillon du jour de l'an? C'est la grande question. Écoutez Mircea Sofonea, épidémiologiste à l'Université de Montpellier.
On a vu par les modèles que si on augmente légèrement le nombre de reproductions, ne serait-ce que 2 jours, eh bien ça suffit pour entraîner un rebond. Et dans ce contexte, il y a ces deux variants et qui circulent en France. Nous sommes en fait dans le début d'un éventuel rebond, et ce rebond-là, nous avons encore les moyens de le contrôler.
Le contrôler en ajustant au mieux les restrictions locales, car même si les hospitalisations et admissions en réanimation sont stables au niveau national, il y a de très fortes disparités régionales.
Et puisqu'on parle des régions, depuis hier soir, 8 nouveaux départements sont soumis au couvre-feu avancé à 18h. Ça fait 23 au total. Demain, le Var et la Drôme les rejoindront. Hier, sur Europe 1, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a évoqué des mesures supplémentaires en cas de flambée de l'épidémie.
En revanche, il n'envisage pas, à ce stade, de fermer les écoles ni de prolonger les vacances de février.
Bonjour Virginie Riva.
Bonjour.
Vous êtes notre spécialiste éducation. À ce stade, les épreuves du bac sont maintenues. En revanche, pour le retour en cours à 100%, c'est une autre histoire.
Oui, une reprise normale le 20 janvier comme envisagé fin novembre par Emmanuel Macron semble désormais impossible. Le ministre a indiqué que la jauge imposée dans les lycées serait sûrement prolongée. Un proche de Jean-Michel Blanquer nous confie même, on se battra surtout pour rester ouvert le plus longtemps possible. Dans ce climat d'incertitude généralisée, il va pourtant falloir prendre une décision pour les épreuves du bac mi-mars. À ce stade, elles sont maintenues, mais sous réserve de l'évolution sanitaire. Le ministre attend en réalité le plus longtemps possible pour prendre la décision la plus en phase avec la situation sanitaire. Mais il n'est pas sourd aux inquiétudes des proviseurs ni à celles des parents d'élèves. Il communiquera donc la semaine prochaine pour dire si oui ou non les épreuves de spécialité sont maintenues en l'état ou transformées en contrôle continu, voire déplacées à juin. En parallèle, le ministre a réuni en fin de semaine dernière tous les cadres de l'éducation nationale en leur demandant d'accélérer sur les tests. À ce stade, seuls 10 000 ont été réalisés alors qu'1 million sont désormais disponibles. En attendant la vaccination qui aura lieu pour les profs à partir d'avril, selon ce qui a été communiqué aux organisations syndicales.
Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1.
Et je vous le rappelle, à 8h15, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, répondra aux question de Sonia Mabrouk.
Et puis on apprend ce matin que les experts de l'OMS chargés d'enquêter sur l'origine du coronavirus vont finalement pouvoir commencer leur mission jeudi en Chine. Prévue la semaine dernière, cette mission avait été annulée à la dernière minute. Et puis aux États-Unis, Joe Biden recevra aujourd'hui la deuxième injection du vaccin Pfizer. Côté politique, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, s'apprête à lancer une série d'actions pour que Donald Trump quitte le pouvoir encore plus vite.
Et c'est Arnold Schwarzenegger également qui s'est mêlé de la situation politique aux États-Unis. Vous l'entendrez dans le journal de 7h30 tout à l'heure avec Sophie Echen. 7h08 sur Europe 1. Allez, on va prendre un petit peu de hauteur, il faut dire qu'on en a besoin, avec une nouvelle technologie. Écoutez bien, une nouvelle technologie qui permet de se repérer en plein jour grâce aux étoiles.
Oui, ça s'appelle le viseur d'étoiles. Ça ressemble un peu à un téléobjectif. C'est une invention française qui permet aux avions de savoir où ils sont, si leur GPS est brouillé. Aude Leroy, vous nous révélez ce matin que la Direction Générale de l'Armement vient de donner son feu vert à un prototype destiné aux armées. À quoi ressemble ce viseur d'étoiles ?
Sa taille varie de celle d'un magnum de champagne à celle d'une petite canette. Les essais à peine achevés sont concluants. Le viseur d'étoiles les repère en plein jour, aussi bien dans l'atmosphère que sur un toit de la banlieue parisienne au milieu d'une épaisse pollution. Et c'est grâce à des algorithmes que cet outil détecte la position de l'avion, explique Franck Poirier, PDG de Soderne, leader mondial des viseurs d'étoiles.
C'est en réalité une caméra qui regarde la voûte céleste en plein jour. Cette caméra est capable de faire le tri entre la lumière du soleil et la lumière des étoiles. Donc, en ne gardant que les étoiles, on arrive à partir du repérage de 4, 5, 6 étoiles à en déduire avec une précision très importante où on se trouve, quelle est notre position.
Presque aussi précis qu'un GPS, ce viseur d'étoiles, déjà installé sur près d'un millier de satellites, pourra un jour être embarqué à bord d'hélicoptères, de drones, de missiles même, et puis à terme sur des bateaux civils ou des véhicules. Sa fiabilité est totale face au GPS, très facile à brouiller.
Merci Aude Leroy. Le déploiement sur les avions militaires, il est prévu pour 2025.
On vous le disait en démarrage de ce journal, on a appris à 7h tout à l'heure, via l'AFP, c'est la famille qui a communiqué la mort de Georges Pernoud. Immense Georges Pernoud à la tête de Thalassa pendant près de 40 ans, un record de longévité. Il est décédé à l'âge de 73 ans d'une longue maladie. Je vous propose en quelques secondes comme ça de réécouter les adieux de Georges Pernoud pour sa dernière à Thalassa.
C'est avec une très grande émotion et de tout cœur que je vous souhaite à toutes et à tous bon vent.
L'émission de télévision Thalassa qui a accompagné quelques vendredis soirs de certains de nos auditeurs ce matin, j'en suis sûr.
Disparition également d'Hubert Auriol, décédé hier à 68 ans après un long combat contre la maladie. Si c'est impossible, ça devient intéressant. C'est ce qu'il disait dans son autobiographie. C'était le premier présentateur de l'émission Koh-Lanta et aussi le triple vainqueur du Dakar.
Merci beaucoup Hélène Zélani. C'était le journal de 7h sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.